Alors, ce matin, nous avons parlé des afflictions, de la persécution, et nous avons lu des textes merveilleux en 2 Corinthiens. Et cela, s'accorde bien avec la suite de ce que nous avons commencé la semaine dernière. L'année dernière, nous avons commencé des enseignements à partir de l'expérience de Job. Et le livre de Job, effectivement, nous enseigne. Et on a vu que la question de la souffrance est une question au cœur des préoccupations de l'homme, mais c'est aussi une réponse au cœur des préoccupations du Seigneur. Et ce livre de Job est sans doute le tout premier chronologiquement à avoir été écrit. Et l'on voit que ce premier livre, la première chose à laquelle Dieu répond, en tout cas à laquelle il s'intéresse, parce que ça nous concerne tous les jours, c'est la question des drames qui, à un moment ou à un autre, nous touche. La semaine dernière, nous avons vu, au travers de Job, mais au travers d'autres textes, qu'au-delà des accidents, des catastrophes naturelles, des maladies, de l'action méchante des hommes ou de celle active de Satan, il y a Dieu qui est au contrôle des drames qui nous touchent et qui les inclut dans un plan à notre égard. Et plutôt que de simplement attribuer ces drames à la malchance ou au hasard, et alors on est dans le désespoir, plutôt que de simplement les attribuer à la faute des hommes, et alors on est dans l'amertume et la vengeance, plutôt que de les attribuer simplement à l'action de Satan, et alors on est dans la peur, nous sommes invités à lever les yeux plus haut, comme Job, et voir Dieu qui contrôle les tenants et les aboutissants. Bien sûr, ça déstabilise. Mais à terme et à l'issue, c'est une victoire. On a vu la semaine dernière comment Dieu mérite qu'on fasse confiance à son action envers nous. Il contrôle les tenants et les aboutissants et on peut lui faire confiance. Et on peut se poser la question, est-ce que ce plan de Dieu est bénéfique? Et nous avons évoqué la réponse que Dieu adresse à Job au chapitre 38, 39, 40 et 41, une réponse un peu particulière, mais dans laquelle Job est invité à regarder Dieu dans son caractère et dans son action. Et de là, à faire confiance à Dieu dans l'action qu'il a entreprise envers Job. On avait vu comment le chapitre 38, à travers la création, montre que Dieu fait les choses avec perspicacité, avec sens, avec projet, avec sagesse, avec intelligence, avec efficacité, avec soin. Et c'est une caractéristique de Dieu de faire une œuvre sage, pesée, intelligente et porteuse d'un projet. Ça, c'est le chapitre 38. Au travers de la création et de tous ces détails, Dieu montre à Job mon action Elle ne part pas dans tous les sens. Elle n'est pas hors contrôle, mais elle est réfléchie et elle est porteuse d'un projet. Dans le chapitre 39, Dieu parle des animaux. Et il va montrer comment il pourvoit leurs besoins, comment il connaît des choses intimes de ces créatures, des choses difficiles à observer, mais que lui voit. Et quelle est la diversité, quelle est la variété qu'il met en chacun. Et Dieu, qui ne change pas dans sa nature, agit de même à l'égard de Job, comme de nous, avec cette proximité, avec cette providence, avec le soin. Il nous connaît de près. Il s'intéresse à nous de manière intime. Et s'il le fait avec ces créatures animales, à combien plus forte raison le fait-il avec ceux qu'il a créés, porteurs de son image? On avait évoqué le reste de la réponse de Dieu, mais on ne va pas y revenir. Et ce matin, nous aimerions continuer dans les enseignements de ce livre de Job. Alors, on se dit, Dieu a montré à Job qu'il pouvait lui faire confiance, mais finalement, quel est le projet? Quelle est la raison? On va voir ce matin que Dieu va montrer à Job qu'il y a plus précieux que juste une vie épargnée par les chagrins. Et ça, c'est quelque chose de pas évident pour nous à intégrer. Je vous invite à prendre votre Bible et à regarder un petit peu quelles sont les attentes de Job dans la vie, dans l'existence, des attentes qui vont faire écho aux nôtres. Alors, dans le livre de Job, on peut commencer par le chapitre 3. Job, chapitre 3, verset 25, Job dit la chose suivante, Job 3, 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et donc voilà, effectivement, l'expression de toute une attente qui est d'échapper à la souffrance, d'échapper au malheur. Je redoute que telle chose arrive dans ma vie, dans mon existence, et voilà qu'elle survient. Je voulais surtout essayer d'y échapper, prier que j'y échappe, et voilà que ça m'atteint. On va un petit peu plus loin, au chapitre 30, au verset 26, Job 30, verset 26, où Job va à nouveau exprimer son attente de l'existence, dans l'existence. Et il dit la chose suivante, j'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Alors, effectivement, ça fait certainement écho à nos propres attentes. Dans la vie, on souhaiterait ne pas souffrir, échapper aux divers chagrins. Et puis, on aimerait aussi être heureux. Hein. On veut fuir la souffrance et gagner le bonheur. Alors, c'est vrai que la souffrance, elle est assez facile à définir, à ressentir. Ce qu'est la souffrance, on le vit par les larmes. Mais par contre, ce qu'est le bonheur, c'est un petit peu plus compliqué. C'est quoi le bonheur? Et Job dit, j'attendais le bonheur. Et on se projette déjà dans la fin de l'histoire de Job, mais quand il dira, mon oreille est entendue, parlez-toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et on peut se poser la question, c'est quoi le bonheur? Est-ce que c'est la sécurité matérielle? Est-ce que ce sont les divers plaisirs de la vie? Est-ce que c'est une relation amoureuse prospère? Où est-ce qu'il y a l'avantage? Voilà. Et ça va faire appel à notre nature la plus profonde d'être humain créé à l'image de Dieu. Dieu est notre créateur, il est notre source. Et effectivement, au-delà des joies du quotidien et des plaisirs divers, le bonheur, il est dans la reconnexion à celui qui est la source de notre existence, l'origine de notre vie. C'est toute la question de la relation de Dieu et de l'homme. Mais voilà, donc Job qui, là où il en est, au moment où toutes ces choses surgissent, surviennent dans sa vie, tous ces drames, bah, il en était là, avec une perspective de vie parallèle à sa piété profonde et réelle, à son attachement à Dieu. Il en était à une conception de l'existence où ce qui compte, c'est de fuir le chagrin, d'échapper au malheur et de gagner le bonheur. Un bonheur qu'il définit aujourd'hui par une tranquillité, une prospérité familiale, matérielle, de santé, toute chose qu'il a perdue. On voit encore l'expression des attentes de Job au chapitre qui précède, au chapitre 29, et au verset 18. C'était un petit peu sa perspective de vie, et le voilà tout dérouté parce que il se pensait bien engagé dans la réussite de son projet d'échapper à la souffrance. Au verset 18, il dit « Alors je disais, je mourrai dans mon nid. Mes jours seront abondants comme le sable, l'eau pénétrera dans mes racines, la rosée passera la nuit sur mes branches, ma gloire reverdira sans cesse, mon arc rajeunira dans ma main. » Voilà, Job pensait achever sa vie et espérait achever sa vie avec ce but d'avoir réussi. Et on le verra tout à l'heure, mais par sa piété en Dieu, avoir réussi par sa piété en Dieu à échapper à la souffrance et aux divers drames qui peuvent survenir dans l'existence. Alors peut-être que c'est aussi notre équation. Peut-être que pour nous comme pour Job, quelque part au fond de nous, il y a cette croyance que la chose la plus précieuse dans une vie, c'est d'être épargné par les chagrins. Et Dieu va montrer à Job qu'il y a quelque chose de plus précieux que juste une vie épargnée par les chagrins. Il veut le faire aller au-delà et Dieu veut nous aussi nous faire aller au-delà de la conception de une sorte de satisfaction. Je me satisfais et je vise une vie épargnée par les chagrins dans laquelle je peux vivre tranquillement ma foi en Dieu. Et quelque part, au fond de nous, on en est là. On veut vivre notre foi en Dieu, on aime le Seigneur. Et si on peut le faire avec une vie épargnée par les chagrins, on pense qu'on a trouvé la meilleure voie possible. C'est ce qu'il y a de plus désirable et précieux. Et Dieu ne voit pas les choses comme nous. Et il dit, il y a plus précieux que juste une vie épargnée par les chagrins. Il y a plus précieux. Et en 1 Pierre 1, je vous invite à aller en 1 Pierre 1, verset 6. 1 Pierre, chapitre 1, au verset 6, il parle bien sûr de la joie du salut à venir. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et c'est le verset 7 qui est clé, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dans ce verset, nous voyons que l'épreuve de notre foi est plus précieuse que l'or périssable. Il y a quelque chose de plus précieux que juste une vie épargnée par les chagrins. C'est l'épreuve de notre foi qui tourne, qui aboutit à louange, gloire et honneur. C'est le test de notre foi qui produit du fruit. Et ce chemin va être long pour Job à faire, mais il va y parvenir et au chapitre 42, il nous donnera la conclusion de son chemin intérieur. Et Job n'est pas personne à, comme il le dit, à donner raison à Dieu alors qu'au fond de lui, il pense qu'il a tort. C'est un homme authentique et vrai qui dit ce qu'il pense. Et alors que pendant 40 chapitres, Job était focalisé sur le fait de dire « je ne mérite pas cela », il change sa lunette et il dit maintenant, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Et effectivement, il y a bien des choses qui arrivent à nous-mêmes ou à des gens autour de nous et on se dit, mais il ne méritait pas ça. Et là, en effet, concernant Job, nous avons la certitude qu'il ne méritait pas ça. Si la lunette comprend, si l'angle de vue avec lequel on regarde les malheurs de Job, si l'angle de vue est celui de la rétribution, le fait que Dieu, dans sa justice, va rétribuer les actions injustes par des malheurs, alors et récompenser les bonnes actions et les actions justes par de la sécurité, par un mur de protection, par une bonne santé, par de la réussite. Avec cette lunette-là, effectivement, Job ne mérite pas ce qui lui arrive. Et c'est incontestable, il ne le mérite pas. Mais dans le cas de Job, Dieu n'a pas pris la lunette du mérite. Dieu n'a pas pris la lunette de la rétribution. Il a pris celle de l'épreuve de la foi de Job, plus précieuse de l'or que l'or. Pour le faire avancer dans son être intérieur et lui faire découvrir qu'il y a plus précieux que juste une vie épargnée par les chagrins. Alors Job est un homme de foi. En Hébreux 11 au verset 6, il est dit « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Job a parfaitement compris ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux exprimera dans le verset que je viens de lire. C'est la foi de Job dans ce Dieu qui existe et qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et je crois que nous avons besoin de nous mettre dans la peau de Job, qui a choisi le chemin de la droiture plutôt que celui du péché, en croyant résolument que Dieu serait sa récompense. C'est la foi qui, dans ce Dieu rémunérateur qui guide la vie de Job. Et dans le chapitre 21, on voit que ce n'était pas forcément un choix facile. Le chapitre 21, Job montre bien que dans la vie, on voit que souvent les méchants réussissent. Souvent les méchants ne reçoivent pas le châtiment moral, éthique qu'ils mériteraient, mais qu'au contraire, leurs magouilles et leurs combines leur permettent de s'engraisser et de mourir en paix. Et effectivement, c'était un vrai choix de foi que pour Job que de croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et de choisir le chemin de la droiture plutôt que celui du péché. Pour s'enrichir, eh bien, il est souvent plus facile de choisir le chemin de la malhonnêteté, de l'extorsion, du vol, que celui de la droiture. Et on pourrait multiplier les exemples où, finalement, pour prospérer, pour être en paix, pour être tranquille, on va faire des compromis et des concessions avec ce qui est juste et ce qui est droit. Parce que bien souvent, ce qui est juste et ce qui est droit, ben, va coûter. Et pour Job, c'était déjà tout un acte de foi en tant que chef de famille, chef de clan, propriétaire terrien, que de marcher en rejetant les combines, en rejetant la pression, en rejetant la violence, en rejetant l'exploitation, et croire quand même que Dieu le récompenserait. Et voilà que Dieu va maintenant le faire aller plus loin dans la foi. Et toute la question ici va être la suivante. Continuer à choisir Dieu et continue à choisir le chemin de la droiture et ce qui est bien, même si, terrestrement, il semble que cela ne paye pas. Et donc, on va voir que Dieu veut faire aller Job plus loin spirituellement. Vous vous souvenez de ce que Satan a prétendu? Il a dit, est-ce de manière désintéressée que Job sert Dieu? Alors vous voyez, ici, l'objet de la foi de Job s'écroule. L'objet de sa foi, c'était que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, et que celui qui s'approche doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ce que croyait Job. Il vivait cette foi dans ce Dieu qui existe et qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et jusqu'à présent, eh bien, son équation tombait juste. Et plutôt que d'opter pour la malhonnêteté, la violence, le péché, Job avait pris des risques, j'ai envie de dire, pris des risques, en choisissant ce qui est bien. Et Dieu l'en avait récompensé. Et Job voyait jour après jour s'accomplir, je dirais, la promesse du fait que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jusqu'à ce que tout s'écroule. Et là, dans son équation, Job est perdu. Il est déstabilisé, il ne comprend plus le sens de rien, il ne comprend plus Dieu. Il ne comprend plus Dieu. Et la tentation est forte de tout laisser tomber. Alors, dans tous les chapitres qui suivent la première exposition de la situation dans le livre de Job, nous avons, durant de longs chapitres ensuite, l'échange entre trois amis venus auprès de Job et les réponses de Job. Et c'est une alternance de ce que Job va exprimer et de ce que ses amis vont lui dire. Et durant de longs chapitres, ce sont les trois plus anciens qui prennent la parole, l'un après l'autre, et qui vont se focaliser sur la mauvaise lunette, qui est celle de la rétribution. Et qui vont dire, ben écoute, il n'y a que cette lunette-là qui existe, au fond. Et donc, si t'arrive tout ça, ben c'est que quelque part, à un endroit dans ta vie, tu le mérites. Et cette lunette-là est fausse. Et voilà que, à l'issue d'un dialogue un petit peu inconstructif, a priori, il y a un quatrième homme qui est venu et qui va prendre la parole. C'est Élihu. Et la réponse est ce que Élihu va dire à Job doit particulièrement nous intéresser. Retenir notre attention. Pourquoi? Parce que tout à la fin, lorsque Dieu intervient lui-même et parle, il va condamner l'intervention des trois amis de Job, mais pas celle d'Élihu. Il va s'adresser aux trois premiers amis de Job en leur disant qu'ils ont mal parlé à son propos. Il dit, vous avez mal parlé à mon propos. Vous vous êtes tenu à la lunette de la rétribution et de celle qui dit, eh ben, voilà, Dieu, c'est un Dieu qui punit celui qui commet des fautes, et c'est tout. Ils l'ont résumé à ça, Dieu, dans sa relation avec l'être humain, avec sa créature. Et dit, vous avez mal parlé de moi, et il demande à Job de prier pour leur restauration. Mais Élieu n'est pas inclus dans ce reproche. Dieu ne fait pas de reproche à ce quatrième personnage, et c'est pour ça qu'on doit tout particulièrement être attentif à ce que Élieu va proposer comme piste de réflexion à Job. Et on y trouve, entre autres, l'appel à la victoire face à la tentation de tout laisser tomber. Vous voyez, on a Job qui est perdu, déstabilisé, qui ne comprend plus pourquoi cette souffrance. Et il y a une tentation qui est forte et qui est de baisser les bras et de dire, bon, ben, si c'est comme ça, moi je laisse tout tomber. Tout tomber avec Dieu. Je laisse tout tomber avec Dieu. Et il y a trois versets en particulier dans les paroles d'Élieu qui reprend ce que Job dit, qui doivent nous interpeller. Le premier, c'est au chapitre 34. Job, chapitre 34. Job 34, verset 9. Ça commence au verset 7. Y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau, marchant en société de ceux qui font le mal, cheminant de pair avec les impies? Et là, on se dit, mais attendez, c'est pas de Job qu'on parle. Job, c'est pas un gars qui chemine avec les impies, c'est pas quelqu'un qu'on peut mettre sur le même pied de ceux qui font le mal. Élieu dit ici, et c'est le verset 9 qui nous donne la raison. Pourquoi? Car il a dit, il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Et ce qu'il y a derrière, c'est de dire finalement, je sers Dieu, j'honore Dieu, je mets mon plaisir en Dieu, et bien tout ça, ça sert à rien. Ça sert à rien, regardez, il m'arrive des malheurs dans la vie et des chagrins ne me sont pas épargnés. On poursuit au chapitre 35, Job 35, verset 3. Déjà le verset 2, il dit, imagines-tu avoir raison, penses-tu te justifier devant Dieu, quand tu dis, que me sert-il, que me revient-il de ne pas pécher? Ça, c'est intéressant. Que me sert-il, que me revient-il de ne pas pécher? Oui, Job en est arrivé à une réflexion où il dit, finalement, j'y gagne quoi, moi, à choisir ce qui est juste et ce qui est droit? J'y gagne quoi à choisir le bien? J'y gagne quoi? En fait, ça sert à rien, en fait. En fait, je vais choisir le bien, mais si vraiment, à la fin, ben, j'en ai pas de salaire, ben, finalement, ça sert à rien de choisir le bien. Souvenez-vous de là où Dieu veut emmener Job. Continuez à choisir Dieu et continuez à choisir le bien, même s'il semble terrestrement que ça ne paye pas. Jusqu'où est-ce que je vais choisir ce qui est bien? Jusqu'où est-ce que je vais rejeter le mal et choisir le bien, même si finalement, cela ne m'épargne pas les tracas, les chagrins, les drames et la souffrance. Et Job 36, verset 21, nous donne une leçon magistrale. Job 36, verset 21, une leçon essentielle qu'il est bon que nous apprenions par cœur. C'est dans la bouche d'Élihu. À Job qui disait « Il est inutile pour l'homme de mettre son plaisir en Dieu. À quoi me sert-il? Que me revient-il de ne pas pécher ?» Job qui lui aussi est sur la lunette de la rétribution et qui quelque part donne partiellement raison à Satan qui disait à Dieu « Est-ce de manière désintéressée que Job sert Dieu ?» Vous savez, Satan n'avait pas vu absolument faux. Quand il pose la question, est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job sert Dieu? Job était de bonne foi, j'ai envie de dire, tel que Hébreux 11 nous l'enseigne. Il croyait en Dieu, il a choisi le bien, il a pris des risques, et Dieu a été son rémunérateur. Il en était là. Mais Dieu voulait le faire aller plus loin, et en testant sa foi, en passant à l'épreuve sa foi, eh bien la foi doit franchir une marche de plus, la foi doit franchir un cap, et le cap qui est là, c'est Job 36, verset 21, « Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. » Voilà la leçon magistrale que nous avons besoin de retenir. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Et il y a ce combat, il y a cette tentation dans la vie de Job de baisser les bras et finalement, dans la souffrance, parce que la souffrance est là, de laisser tomber et de se tourner vers le mal. Parce que la souffrance a pour nous disposer. Oui, tant que la souffrance n'était pas là, Job avait eu cette foi honorable, cette foi qui prend des risques, cette foi que beaucoup de ses contemporains n'avaient pas, de choisir Dieu et de choisir le chemin de la droiture plutôt que celui de l'iniquité. Mais Dieu veut le faire aller plus loin et dit, est-ce que tu vas continuer de me choisir? Est-ce que tu vas continuer de choisir le bien? Et éthiquement, c'est une question profonde. Jusqu'où je vais continuer de choisir le bien? Lorsque la souffrance est là, lorsque la souffrance me pousse à me livrer au mal. Et il y a ce combat dans le cœur de Job qui s'exprime par des paroles qui dit ouais finalement ça sert à rien ça me... à quoi me revient-il de pas pécher et là j'imagine à cette étape-là Satan qui se frottait les mains parce que disait, ah, tu vois, finalement, c'était pas d'une manière désintéressée que j'observe Dieu. Il est intéressé. Il regarde maintenant que, regarde maintenant son tourment intérieur, son questionnement. Il est inutile à l'homme. Je suis dégoûté de la vie, dit Job, finalement. Je suis en colère. Je suis désemparé parce que finalement, tout ça, ça sert à rien d'être juste, d'être droit, de faire le bien, de choisir Dieu. Mais Satan n'a pas gagné. Et Job va arriver au bout de son cheminement intérieur Sa foi va être épurée et il va passer le cap. Et il va passer le cap en ayant la victoire et en se gardant de se livrer au mal, même si la souffrance l'y dispose. Il a eu l'intervention sage d'Élihu, à laquelle immédiatement va succéder l'intervention de Dieu, qui va lui dire, tu sais, ta lunette de la rétribution, il y en a une autre. Et cette autre lunette, c'est que tout ce que je le fais de manière sage, pesée, intelligente. J'ai un projet. Je suis celui qui est toujours porteur d'un projet pour ma création et pour mes créatures et pour toi. Et Job va passer le cap. Il va avoir cette victoire intérieure. Il va remporter la victoire et il va expérimenter que il y a plus que la richesse extérieure. Il y a la richesse intérieure. Cette richesse intérieure de continuer de se tourner, de choisir le bien, même quand ça semble ne pas payer. Il y a plus que la sérénité de la vie quotidienne. Il y a la paix avec Dieu. Il y a plus que l'absence de larmes à verser. Il y a plus que la rémunération terrestre. Et là, Job, par la foi, entrevoit quelque chose qui nous a été dit en toutes lettres à nous, que nous avons d'ailleurs lu ce matin en 2 Corinthiens 4, verset 17. 2 Corinthiens 4, 17. Nous allons relire ce verset si important. Sur le fait, verset 16, de ne pas perdre courage. Hein. La victoire à remporter face à la tentation de tout laisser tomber. La souffrance nous dispose à laisser tomber. Laisser tomber Dieu, laisser tomber la droiture, laisser tomber notre piété, laisser tomber. Et dit, nous ne perdons pas courage. Et le verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Oui, Job va comprendre qu'il y a plus que juste une vie épargnée par les chagrins. Il va voir qu'il y a plus que la rétribution terrestre. Il va passer du visible à l'invisible, du passager à ce qui est éternel. Il va faire confiance à ce Dieu qui contrôle les tenants et les aboutissants des drames qui peuvent nous toucher. Et il va franchir le cap de cette tentation de tout laisser tomber. De cette tentation de se détourner de Dieu et de peut-être se tourner vers le mal parce que la souffrance l'y dispose. Et ses attentes vont changer. Jusque-là, il vivait en disant finalement, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Après cela, il ne vivra plus en étant dans la crainte de malheur qui pourrait arriver, parce qu'il a appris qu'il y a plus précieux que juste l'absence des chagrins dans la vie. Il y a plus précieux. Et il aura trouvé, et il aura expérimenté, et il aura touché du doigt ce qui est plus précieux. Et c'est devenu pour lui plus précieux. Alors nous sommes appelés à remporter la même victoire. Nous sommes appelés à remporter la même victoire que Job. Garde-toi de te livrer au mal parce que la souffrance t'y dispose. Nous sommes invités à expérimenter qu'il y a plus que juste une vie épargnée par les chagrins. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Nous verrons sans doute une prochaine fois que cette victoire ne se fait pas sans lutte intérieure, sans déstabilisation, et c'est normal. Et Dieu ne fera pas de reproche à Job pour son cheminement intérieur, parce que c'était un cheminement intérieur qui ne pouvait pas exister tant que la souffrance n'avait pas frappé à la porte. Job vivait avec ce qu'il connaissait de Dieu. Et Dieu le fait aller encore au-delà. Et Job passe le cap avec victoire. Alors, face à nos propres drames, souffrances, difficultés, voyons comme Job, voyons ses larmes, voyons ses cris, voyons sa colère, voyons ses interrogations. Il comprend plus le sens de rien, il comprend plus Dieu. Mais il ne lâche pas. Il est tenté de tout laisser tomber. Mais il ne lâche pas. Il passe le cap. Et il découvre quelque chose de plus précieux. Qu'il ne lâchera pour rien au monde après. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et effectivement, ça, c'est une foi qui a passé un cap, le cap de ce qui est visible, pour atteindre ce qui est invisible. Nous, on tient à ce qui est visible. Nous, on tient à ce que Dieu soit le rémunérateur visible de ceux qui le cherchent. Il y a quelque chose de plus précieux, parce que ce qui est visible est passager, mais ce qui est invisible est éternel. Alors, marchons dans ce chemin, parce que ça vaut la peine. Prions. Seigneur, c'est une question difficile que ce livre de Job présente. Et selon les chagrins et les drames qui surviennent, nous sommes révoltés et nous n'avons absolument pas envie d'avancer dans ce chemin de Job. Seigneur, nous voyons que ce qui est dans notre cœur alors, sont des pensées d'amertume, de colère, d'agitation, de trouble. Et tu veux mettre ta paix dans nos vies, dans nos cœurs, face à ces choses qui font couler nos larmes. Seigneur, nous te demandons d'intervenir par ton esprit dans nos vies pour nous faire passer les caps comme Job, que nous avons besoin de passer. Et pour expérimenter, découvrir et accepter que il y a plus précieux et que c'est plus précieux. Aide-nous, Seigneur, vraiment, à passer du visible à l'invisible et du passager à ce qui est éternel. Oui, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Et si ce n'est pas dans le visible aujourd'hui, ce sera dans l'éternel. Un poids éternel de gloire pour la suite qui nous attend avec toi. Encourage-nous, Seigneur, à cela. Au nom de Jésus. Amen.